Édouard Chauret, Les grands initiés, livre 6, Pythagore. Troisième degré, perfection, cosmogonie et psychologie, l'évolution de l'âme. Le disciple avait reçu du maître les principes de la science. Cette première initiation avait fait tomber les écailles épaisses de la matière qui recouvraient les yeux de son esprit. Déchirant le voile brillant de la mythologie, elle l'avait arraché au monde visible pour le jeter éperdument dans les espaces sans bornes et le plonger dans le soleil de l'intelligence, d'où la vérité irradie sur les trois mondes. Mais la science des nombres n'était que le préambule de la grande initiation. Armé de ses principes, il s'agissait maintenant de descendre des hauteurs de l'absolu dans les profondeurs de la nature pour y saisir la pensée divine dans la formation des choses et dans l'évolution de l'âme à travers les mondes. La cosmogonie et la psychologie ésotérique touchaient au plus grand mystère de la vie, à des secrets dangereux et jalousement gardés des sciences et des arts occultes. Aussi, Pythagore aimait-il à donner ses leçons loin du jour profane, la nuit, au bord de la mer, sur les terrasses du temple de Cérès, au murmure léger de la vague ionienne, d'une si mélodieuse cadence, aux lointaines phosphorescences du cosmos étoilé. Ou bien, dans les cryptes du sanctuaire, où des lampes égyptiennes de naphte répandaient une clarté égale et douce. Les femmes initiées assistaient à ces réunions nocturnes. Quelquefois, des prêtres ou des prêtresses, arrivés de Delphes ou d'Éleusis, venaient confirmer les enseignements du maître par le récit de leurs expériences, ou par la parole lucide du sommeil clairvoyant. L'évolution matérielle et l'évolution spirituelle du monde sont deux mouvements inverses, mais parallèles et concordants sur toute l'échelle de l'être. L'un ne s'explique que par l'autre, et vu ensemble, ils expliquent le monde. L'évolution matérielle représente la manifestation de Dieu dans la matière, par l'âme du monde qui la travaille. L'évolution spirituelle représente l'élaboration de la conscience dans les monades individuelles et leur tentative de rejoindre, à travers le cycle des vies, l'esprit divin dont elles émanent. Voir l'univers au point de vue physique ou au point de vue spirituel, ce n'est pas considérer un objet différent. C'est regarder le monde par les deux bouts opposés. Au point de vue terrestre, l'explication rationnelle du monde doit commencer par l'évolution matérielle, puisque c'est par ce côté qu'il nous apparaît. Mais en nous faisant voir le travail de l'esprit universel dans la matière et poursuivre le développement des monades individuelles, elle conduit insensiblement au point de vue spirituel et nous fait passer du dehors au dedans des choses, de l'envers du monde à son endroit. Ainsi, du moins, procédait Pythagore, qui considérait l'univers comme un être vivant, animé d'une grande âme et pénétré d'une grande intelligence. La seconde partie de son enseignement commençait donc par la cosmogonie. Si l'on s'en tenait aux divisions du ciel, que nous trouvons dans les fragments ésotériques des pythagoriciens, cette astronomie serait semblable à l'astronomie de Ptolémée, la Terre immobile et le Soleil tournant autour, avec les planètes et le ciel tout entier. Mais le principe même de cette astronomie nous avertit qu'elle est purement symbolique. Au centre de son univers, Pythagore place le feu, dont le soleil n'est qu'un reflet. Or, dans tout l'ésotérisme de l'Orient, Le feu est le signe représentatif de l'esprit, de la conscience divine, universelle. Ce que nos philosophes prennent généralement pour la physique de Pythagore et de Platon n'est donc pas autre chose qu'une description imagée de leur philosophie secrète, lumineuse pour les initiés, mais d'autant plus impénétrable aux vulgaires qu'on la faisait passer pour une simple physique. Cherchons-y donc une sorte de cosmographie de la vie des âmes et pas autre chose. La région sublunaire désigne la sphère où s'exerce l'attraction terrestre et est appelée le cercle des générations. Les initiés entendaient par là que la Terre est pour nous la région de la vie corporelle. Là se font toutes les opérations qui accompagnent l'incarnation et la désincarnation des âmes. La sphère des six planètes et du Soleil répond à des catégories ascendantes d'esprit. L'Olympe, conçue comme une sphère roulante, est appelée le ciel des fixes parce qu'il est assimilé à la sphère des âmes parfaites. Cette astronomie enfantine recouvre donc une conception de l'univers spirituel. Mais tout nous porte à croire que les anciens initiés, et particulièrement Pythagore, avaient de l'univers physique des notions beaucoup plus justes. Aristote dit positivement que les pythagoriciens croyaient au mouvement de la Terre autour du Soleil. Copernic affirme que l'idée de la rotation de la Terre autour de son axe lui est venue en lisant dans Cicéron qu'un certain Icétas de Syracuse avait parlé du mouvement diurne de la Terre. À ses disciples du troisième degré, Pythagore enseignait le double mouvement de la Terre. Sans avoir les mesures exactes de la science moderne, il savait, comme les prêtres de Memphis, que les planètes issues du Soleil tournent autour de lui, que les étoiles sont autant de systèmes solaires gouvernés par les mêmes lois que le nôtre et dont chacun a son rang dans l'immense univers. Il savait aussi que chaque monde solaire forme un petit univers qui a sa correspondance dans le monde spirituel et son ciel propre. Les planètes servait à en marquer l'échelle. Mais ces notions, qui auraient bouleversé la mythologie populaire et que la foule eût taxée de sacrilège, n'étaient jamais confiées à l'écriture vulgaire. On ne les enseignait que sous le sceau du plus profond secret. L'univers visible, disait Pythagore, le ciel avec toutes ses étoiles, n'est qu'une forme passagère de l'âme du monde, de la grande Maya, qui concentre la matière éparse dans les espaces infinis, puis la dissout et la parsème en fluide cosmique impondérable. Chaque tourbillon solaire possède une parcelle de cette âme universelle qui évolue dans son sein pendant des millions de siècles avec une force d'impulsion et une mesure spéciale. Quant aux puissances, aux règnes, aux espèces et aux âmes vivantes qui apparaîtront successivement dans les astres de ce petit monde, elles viennent de Dieu, elles descendent du Père. C'est-à-dire qu'elles émanent d'un ordre spirituel immuable et supérieur, ainsi que d'une évolution matérielle antérieure. J'entends d'un système solaire éteint. De ces puissances invisibles, les unes, absolument immortelles, dirigent la formation de ce monde, les autres attendent son éclosion dans le sommeil cosmique ou dans le rêve divin, pour rentrer dans les générations visibles selon leur rang et selon la loi éternelle. Cependant, l'âme solaire et son feu central, que meut directement la grande monade, travaille la matière en fusion. Les planètes sont filles du Soleil. chacune d'elles, élaborée par les forces d'attraction et de rotation inhérentes à la matière, est douée d'une âme semi-consciente issue de l'âme solaire et a son caractère distinct, son rôle particulier dans l'évolution. Comme chaque planète est une expression diverse de la pensée de Dieu, comme elle exerce une fonction spéciale dans la chaîne planétaire, les anciens sages ont identifié les noms des planètes avec ceux des grands dieux, qui représentent les facultés divines en action dans l'univers. Les quatre éléments, dont sont formés les astres et tous les êtres, désignent quatre états gradués de la matière. Le premier, étant le plus dense et le plus grossier, est le plus réfractaire à l'esprit. Le dernier, étant le plus raffiné, montre pour lui une grande affinité. La terre représente l'état solide, l'eau l'état liquide, l'air l'état gazeux, le feu l'état impondérable. Le cinquième élément, ou éthérique, représente un état de la matière tellement subtil et vivace qu'il n'est plus atomique et doué de pénétration universelle. C'est le fluide cosmique originaire, la lumière astrale ou l'âme du monde. Pythagore parlait ensuite à ses disciples de l'Égypte et de l'Asie. Il savait que la Terre en fusion était primitivement entourée d'une atmosphère gazeuse qui, liquéfiée par son refroidissement successif, avait formé les mers. Selon son habitude, il résumait métaphoriquement cette idée en disant que les mers étaient produites par les larmes de Saturne, le temps cosmique. Mais voici les règnes qui apparaissent et les germes invisibles, flottant dans l'aura éthérée de la Terre, tourbillonnent dans sa robe gazeuse, puis sont attirés dans le sein profond des mers et sur les premiers continents émergés. Les mondes végétal et animal, encore confondus, apparaissent presque en même temps. La doctrine ésotérique admet la transformation des espèces animales non seulement d'après la loi secondaire de la sélection, mais encore d'après la loi primaire de la percussion de la Terre par les puissances célestes et de tous les êtres vivants par des principes intelligibles et des forces invisibles. Lorsqu'une espèce nouvelle apparaît sur le globe, c'est qu'une race d'âmes d'un type supérieur s'incarne à une époque donnée dans les descendants de l'espèce ancienne pour la faire monter d'un échelon en la remoulant et la transformant à son image. C'est ainsi que la doctrine ésotérique explique l'apparition de l'homme sur la Terre. Au point de vue de l'évolution terrestre, l'homme est le dernier rameau et le couronnement de toutes les espèces antérieures. Mais ce point de vue ne suffit pas plus pour expliquer son entrée en scène qu'il ne suffirait pour expliquer l'apparition de la première algue ou du premier crustacé dans le fond des mers. Toutes ces créations successives supposent, comme chaque naissance, la percussion de la Terre par les puissances invisibles qui créent la vie. Celle de l'homme suppose le règne antérieur d'une humanité céleste qui préside à l'éclosion de l'humanité terrestre et lui envoie, comme les ondes d'une marée formidable, de nouveaux torrents d'âmes qui s'incarnent dans ses flancs et font luire les premiers rayons d'un jour divin dans cette être effarée de l'animalité et forcé pour vivre de lutter avec toutes les puissances de la nature. Pythagore, instruit par les temples de l'Égypte, avait des notions précises sur les grandes révolutions du globe. La doctrine indienne et égyptienne connaissait l'existence de l'ancien continent astral qui avait produit la race rouge et une puissante civilisation appelée Atlante par les Grecs. Elle attribuait l'émergence et l'immersion alternative du continent à l'oscillation des pôles et admettait que l'humanité avait traversé ainsi 6 déluges. Chaque cycle interdiluvien amène la prédominance d'une grande race humaine. Au milieu des éclipses partielles de la civilisation et des facultés humaines, il y a un mouvement général ascendant. Voici donc l'humanité constituée et les races lancées dans leur carrière à travers les cataclysmes du globe. Mais sur ce globe que nous prenons en naissant pour la base immuable du monde et qui flotte lui-même emporté dans l'espace, sur ces continents qui émergent des mers pour disparaître de nouveau au milieu de ces peuples qui passent, de ces civilisations qui croulent, quel est le grand, le poignant, l'éternel mystère? C'est le grand problème intérieur, celui de chacun et de tous. C'est le problème de l'âme qui découvre en elle-même un abîme de ténèbres et de lumière, qui se regarde avec un mélange de ravissement et d'effroi, et se dit « Je ne suis pas de ce monde, car il ne suffit pas pour m'expliquer. Je ne viens pas de la terre et je vais ailleurs. Mais où ?» C'est le mystère du psyché qui renferme tous les autres. La cosmogonie du monde visible, disait Pythagore, nous a conduit à l'histoire de la terre, et celle-ci au mystère de l'âme humaine. Avec lui, nous touchons au sanctuaire des sanctuaires, à l'arcane des arcanes. Sa conscience, une fois éveillée, l'âme devient pour elle-même le plus étonnant des spectacles. Mais cette conscience même n'est que la surface éclairée de son être, où elle soupçonne des abîmes obscurs et insondables. Dans sa profondeur inconnue, la divine psyché contemple d'un regard fasciné toutes les vies et tous les mondes, le passé, le présent, le futur que joint l'éternité. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux. Voilà le secret des sages initiés. Mais pour pénétrer par cette porte étroite dans l'immensité de l'univers invisible, éveillons en nous la vie directe de l'âme purifiée et armons-nous du flambeau de l'intelligence, de la science des principes et des nombres sacrés. Pythagore passait ainsi de la cosmogonie physique à la cosmogonie spirituelle. Après l'évolution de la Terre, il racontait l'évolution de l'âme à travers les mondes. En dehors de l'initiation, cette doctrine est connue sous le nom de transmigration des âmes. Sur aucune partie de la doctrine occulte, on n'a plus déraisonné que sur celle-là, si bien que la littérature antique et moderne ne la connaît que par des travestissements puérils. Platon lui-même, celui de tous les philosophes qui a le plus contribué à la populariser, n'en a donné que des aperçus fantaisistes et parfois extravagant, soit que sa prudence, soit que ses serments l'aient empêché de dire tout ce qu'il savait. Peu de gens se doutent aujourd'hui qu'elle ait pu avoir, pour les initiés, un aspect scientifique, ouvrir des perspectives infinies et donner à l'âme des consolations divines. La doctrine de la vie ascensionnelle de l'âme à travers la série des existences, est le trait commun des traditions ésotériques et le couronnement de la théosophie. J'ajoute qu'elle a pour nous une importance capitale, car l'homme d'aujourd'hui rejette avec un égal mépris l'immortalité abstraite et vague de la philosophie et le ciel enfantin de la religion primaire. Et cependant, la sécheresse et le néant du matérialisme lui font horreur. Il aspire inconsciemment à la conscience d'une immortalité organique, qui répondent à la fois aux exigences de sa raison et aux besoins indestructibles de son âme. On comprend du reste pourquoi les initiés des religions antiques, tout en ayant connaissance de ces vérités, les ont tenues si secrètes. Elles sont de nature à donner le vertige aux esprits non cultivés. Elles se lient étroitement au profond mystère de la génération spirituelle des sexes et de la génération dans la chair, d'où dépendent les destinées de l'humanité future. On attendait donc avec une sorte de frémissement cette heure capitale de l'enseignement ésotérique. Par la parole de Pythagore, comme par une lente incantation, la lourde matière semblait perdre son poids. Les choses de la terre devenaient transparentes, celles du ciel visibles à l'esprit. Des sphères d'or et d'azur, sillonnées d'essences lumineuses, déroulaient leurs orbes jusqu'à l'infini. Alors, les disciples, hommes et femmes, groupés autour du maître dans une partie souterraine du temple de Cérès, appelée crypte de Proserpine, écoutaient avec une émission palpitante l'histoire céleste de Psyché. Qu'est-ce que l'âme humaine? Une parcelle de la grande âme du monde, une étincelle de l'esprit divin, une monade immortelle. Mais si son possible avenir s'ouvre dans les splendeurs insondables de la conscience divine, sa mystérieuse éclosion remonte aux origines de la matière organisée. Pour devenir ce qu'elle est dans l'humanité actuelle, il a fallu qu'elle traversât tous les règnes de la nature, toute l'échelle des êtres, en se développant graduellement par une série d'innombrables existences. L'esprit qui travaille les mondes et condense la matière cosmique en masses énormes se manifeste avec une intensité diverse et une concentration toujours plus grande dans les règnes successifs de la nature. Force aveugle et indistincte dans le minéral, individualisée dans la plante, polarisée dans la sensibilité et l'instinct des animaux, elle tend vers la monade consciente dans cette lente élaboration. Et la monade élémentaire est visible dans l'animal le plus inférieur. L'élément animique et spirituel existe donc dans tous les règnes, quoique seulement à l'état de quantité infinitésimale dans les règnes inférieurs. Les âmes qui existent à l'état de germe dans les règnes inférieurs y séjournent sans en sortir pendant d'immenses périodes. Et ce n'est qu'après de grandes révolutions cosmiques qu'elle passe à un règne supérieur en changeant de planète. Tout ce qu'elle peut faire pendant la période de vie d'une planète, c'est de monter quelques espèces. Où commence la monade? Autant vaudrait demander l'heure où s'est formée une nébuleuse, ou un soleil a reluit pour la première fois. Quoi qu'il en soit, ce qui constitue l'essence de n'importe quel homme a dû évoluer pendant des millions d'années à travers une chaîne de planètes et les règnes inférieurs, tout en conservant à travers toutes ses existences un principe individuel qui la suit partout. Cette individualité, obscure mais indestructible, constitue le sceau divin de la monade en qui Dieu veut se manifester par la conscience. Plus on monte la série des organismes, plus la nomade développe les principes latents qui sont en elle. La force polarisée devient sensible, la sensibilité instinct, l'instinct intelligence. Et à mesure que s'allume le flambeau vacillant de la conscience, cette âme devient plus indépendante du corps, plus capable de mener une existence libre. l'âme fluide et non polarisée des minéraux et des végétaux est liée aux éléments de la terre. Celle des animaux, fortement attirée par le feu terrestre, y séjourne un certain temps lorsqu'elle a quitté son cadavre, puis revient à la surface du globe pour se réincarner dans son espèce sans jamais pouvoir quitter les basses couches de l'air. Celles-ci sont peuplées d'élémentaux ou d'âmes animales qui ont leur rôle dans la vie atmosphérique et une grande influence occulte sur l'homme. L'âme humaine seule vient du ciel et retourne après la mort. Mais à quelles époques de sa longue existence cosmique l'âme élémentaire est-elle devenue l'âme humaine? Par quel creuset incandescent? Par quelle flamme éthérée a-t-elle passé pour cela? La transformation n'a été possible dans une période interplanétaire que par la rencontre d'âmes humaines déjà pleinement formées qui ont développé dans l'âme élémentaire son principe spirituel et ont imprimé leur divin prototype comme un sceau de feu dans sa substance plastique. Mais que de voyages, que d'incarnations, que de cycles planétaires encore à traverser pour que l'âme humaine ainsi formée devienne l'homme que nous connaissons. Selon les traditions ésotériques de l'Inde et de l'Égypte, les individus qui composent l'humanité actuelle auraient commencé leur existence humaine sur d'autres planètes où la matière est beaucoup moins dense que sur la nôtre. Le corps de l'homme était alors presque vaporeux, ses incarnations légères et faciles, ses facultés de perception spirituelle directe auraient été très puissantes et très subtiles dans cette première phase humaine. La raison et l'intelligence, par contre, à l'état embryonnaire. Dans cet état semi-corporel, semi-spirituel, l'homme voyait les esprits. Tout était splendeur et charme pour ses yeux, musique pour ses oreilles. Il entendait jusqu'à l'harmonie des sphères. Il ne pensait ni ne réfléchissait. Il voulait à peine. Il se laissait vivre en buvant les sons, les formes et la lumière, en flottant comme un rêve de la vie à la mort et de la mort à la vie. Voilà ce que les orphiques appelaient le ciel de Saturne. Ce n'est qu'en s'incarnant sur des planètes de plus en plus denses, selon la doctrine d'Hermès, que l'homme s'est matérialisé. En s'incarnant dans une matière plus épaisse, l'humanité a perdu son sens spirituel. Mais par sa lutte de plus en plus forte avec le monde extérieur, elle a développé puissamment sa raison, son intelligence, sa volonté. La Terre est le dernier échelon de cette descente dans la matière que Moïse appelle la sortie du paradis et Orphée la chute dans le cercle sublunaire. De là, l'homme peut remonter péniblement les cercles dans une série d'existences nouvelles et recouvrer ses sens spirituels par le libre exercice de son intellect et de sa volonté. Alors seulement, disent les disciples d'Hermès et d'Orphée, l'homme acquiert par son action la conscience et la possession du divin. Alors seulement, il devient fils de Dieu. Et ceux qui, sur la terre, ont porté ce nom, ont dû, avant de paraître parmi nous, descendre et remonter l'effrayante spirale. Qu'est-ce donc que l'humble psyché a son origine? Un souffle qui passe, un germe qui flotte, un oiseau battu des vents qui émigre de vie en vie. Et cependant, de naufrage en naufrage, à travers des millions d'années, elle est devenue la fille de Dieu et ne reconnaît plus d'autre patrie que le ciel. Voilà pourquoi la poésie grecque, d'un symbolisme si profond et si lumineux, a comparé l'âme à l'insecte ailé, tantôt ver de terre, tantôt papillon céleste. Combien de fois a-t-elle été chrysalide, et combien de fois papillon? Elle ne le saura jamais, mais elle sent qu'elle a des ailes. Tel est le vertigineux passé de l'âme humaine. Il nous explique sa condition présente et nous permet d'entrevoir son avenir. Quelle est la situation de la divine psyché dans la vie terrestre? Pour peu qu'on réfléchisse, on ne saurait en imaginer de plus étrange et de plus tragique. Depuis qu'elle s'est péniblement éveillée dans les répets de la terre, l'âme est enlacée dans les replis du corps. Elle ne vit, ne respire, ne pense qu'à travers lui. Et cependant, il n'est pas elle. À mesure qu'elle se développe, elle sent grandir en elle-même une lumière tremblotante, quelque chose d'invisible et d'immatériel qu'elle appelle son esprit, sa conscience. Oui, l'homme a le sentiment inné de sa triple nature, puisqu'il distingue, dans son langage même instinctif, son corps de son âme et son âme de son esprit. Mais l'âme captive et tourmentée se débat entre ses deux compagnons comme entre l'étreinte d'un serpent aux mille replis et un génie invisible qui l'appelle, mais dont la présence ne se fait sentir que par le battement de ses ailes et des lueurs fugitives. Tantôt, ce corps l'absorbe à tel point qu'elle ne vit que par ses sensations et ses passions. Elle se roule avec lui dans les orgies sanglantes de la colère ou dans l'épaisse fumée des voluptés charnelles, jusqu'à ce qu'elle s'effraie d'elle-même par le silence profond du compagnon invisible. Tantôt, attirée par celui-ci, elle se perd à une telle hauteur de pensée qu'elle oublie l'existence du corps, jusqu'à ce qu'il lui rappelle sa présence par un appel tyrannique. Et pourtant, une voix intérieure le lui dit. Entre elle et l'autre invisible, le lien est indissoluble, tandis que la mort rompra son attache avec le corps. Mais ballottée entre les deux dans sa lutte éternelle, l'âme cherche vainement le bonheur et la vérité. Vainement elle se cherche elle-même dans ses sensations qui passent, dans ses pensées qui la fuient, dans le monde qui change comme un mirage. Ne trouvant rien qui dure, tourmentée, chassée comme une feuille au vent, elle doute d'elle-même et d'un monde divin qui ne se révèle à elle que par sa douleur et son impuissance d'y atteindre. L'ignorance humaine est écrite dans les contradictions des prétendus sages et la tristesse humaine dans la soif insondable du regard humain. Enfin, quelle que soit l'étendue de ses connaissances, la naissance et la mort enferment l'homme entre deux limites fatales. Ce sont deux portes de ténèbres au-delà desquelles il ne voit rien. La flamme de sa vie s'allume en entrant par l'une et s'éteint en sortant par l'autre. En serait-il de même de l'âme? Sinon, que devient-elle? La réponse que les philosophes ont donnée à ce problème poignant a été fort diverse. Celle des théosophes, initiés de tous les temps, est la même pour l'essentiel. Elle est d'accord avec le sentiment universel et avec l'esprit intime des religions. Celles-ci n'ont exprimé la vérité que sous des formes superstitieuses ou symboliques. La doctrine ésotérique ouvre des perspectives bien plus vastes et ses affirmations sont en rapport avec les lois de l'évolution universelle. Voilà ce que les initiés instruits par la tradition et par les nombreuses expériences de la vie psychique ont dit à l'homme. Ce qui s'agite en toi, ce que tu appelles ton âme, est un double éthéré du corps qui renferme en lui-même un esprit immortel. L'esprit se construit et se tisse par son activité propre, son corps spirituel. Pythagore l'appelle le char subtil de l'âme parce qu'il est destiné à l'enlever de terre après la mort. Ce corps spirituel est l'organe de l'esprit, son enveloppe sensitive, son instrument volité et sert à l'animation du corps qui, sans cela, demeurerait inerte. Dans les apparitions des mourants ou des morts, ce double devient visible. Mais cela suppose toujours un état nerveux spécial chez le voyant. La subtilité, la puissance, la perfection du corps spirituel varient selon la qualité de l'esprit qu'il renferme. Et il y a, entre la substance des âmes tissées dans la lumière astrale, mais imprégnées des fluides impondérables de la terre et du ciel, des nuances plus nombreuses, des différences plus grandes qu'entre tous les corps terrestres et tous les états de la matière pondérable. Ce corps astral, quoique beaucoup plus subtil et plus parfait que le corps terrestre, n'est pas immortel comme la monade qu'il contient. Il change, il s'épure selon les milieux qu'il traverse. L'esprit le moule, le transforme perpétuellement à son image, mais ne le quitte jamais. Et s'il s'en dévêt peu à peu, c'est en revêtissant des substances plus éthérées. Voilà ce qu'enseignait Pythagore, qui ne concevait pas l'entité spirituelle abstraite, la monade sans forme. L'esprit en acte, dans le fond des cieux comme sur la terre, doit avoir un organe. Cet organe est l'âme vivante, bestiale ou sublime, obscure ou radieuse, mais ayant la forme humaine, cette image de Dieu. Qu'arrive-t-il à la mort? Aux approches de l'agonie, l'âme pressent généralement sa prochaine séparation du corps. Elle revoit toute son existence terrestre en tableau raccourci, d'une succession rapide, d'une netteté effrayante. Mais quand la vie épuisée s'arrête dans le cerveau, elle se trouble et perd totalement conscience. Si c'est une âme sainte et pure, ses sens spirituels se sont déjà réveillés par le détachement graduel de la matière. Elle a eu avant de mourir, d'une manière quelconque, ne fût-ce que par l'introspection de son propre état, le sentiment de la présence d'un autre monde. Aux sollicitations silencieuses, aux appels lointains, aux vagues rayons de l'invisible, la terre a déjà perdu sa consistance, et lorsque l'âme s'échappe enfin du cadavre refroidi, heureuse de sa délivrance, elle se sent enlevée dans une grande lumière vers la famille spirituelle à laquelle elle appartient. Mais il n'en est pas ainsi de l'homme ordinaire, dont la vie a été partagée entre les instincts matériels et les aspirations supérieures. Il se réveille avec une demi-conscience, comme dans la torpeur d'un cauchemar. Il n'a plus ni bras pour étreindre, ni voix pour crier, mais il se souvient, il souffre, il existe dans un limbe de ténèbres et d'épouvante. La seule chose qu'il y aperçoit est la présence de son cadavre dont il est détaché, mais pour lequel il éprouve encore une invincible attraction. Car c'est par lui qu'il vivait. Et maintenant, quel est-il? Il se cherche avec effroi dans les fibres glacées de son cerveau, dans le sang figé de ses veines, et ne se trouve plus. Est-il mort? Est-il vivant? Il voudrait voir, se cramponner à quelque chose. Mais il ne voit pas, il ne saisit rien. Les ténèbres l'enferment. Autour de lui, en lui, tout est chaos. Il ne voit qu'une chose, et cette chose l'attire et lui fait horreur. La phosphorescence sinistre de sa propre dépouille. Et le cauchemar recommence. Cet état peut se prolonger pendant des mois ou des années. Sa durée dépend de la force des instincts matériels de l'âme. Mais, bonne ou mauvaise, infernale ou céleste, cette âme prendra peu à peu conscience d'elle-même et de son nouvel état. Une fois libre de son corps, elle s'échappera dans les gouffres de l'atmosphère terrestre, dont les fleuves électriques l'emportent de ci et de là, et dont elle commence à percevoir les errants multiformes, plus ou moins semblables à elle-même, comme des lueurs fugaces dans une brume épaisse. Alors commence une lutte vertigineuse, acharnée de l'âme encore alourdie, pour monter dans les couches supérieures de l'air, se délivrer de l'attraction terrestre et gagner dans le ciel de notre système planétaire la région qui lui est propre et que des guides amis peuvent seuls lui montrer. Mais avant de les entendre et de les voir, il lui faut souvent un long temps. Cette phase de la vie de l'âme a porté des noms divers dans les religions et les mythologies. Moïse l'appelle Horeb, Orphée l'Ereb, le christianisme le purgatoire, ou la vallée de l'ombre de la mort. Les initiés grecs l'identifiaient avec le cône d'ombre que la terre traîne toujours derrière elle, qui va jusqu'à la lune, et l'appelaient pour cette raison le gouffre des quatre. Dans ce puits ténébreux tourbillonnent, selon les orphiques et les pythagoriciens, les âmes qui cherchent, par des efforts désespérés, à gagner le cercle de la lune et que la violence des vents rabat par milliers sur la terre. Homère et Virgile les comparent à des tourbillons de feuilles, à des essaims d'oiseaux affolés par la tempête. La lune jouait un grand rôle dans l'ésotérisme antique. Sur sa face tournée vers le ciel, les âmes étaient censées purifier leur corps astral avant de continuer leur ascension céleste. On supposait aussi que les héros et les génies séjournaient un temps sur sa face tournée vers la terre pour revêtir un corps approprié à notre monde avant de s'y réincarner. On attribuait en quelque sorte à la lune le pouvoir de magnétiser l'âme pour l'incarnation terrestre et de la démagnétiser pour le ciel. D'une manière générale, ces assertions, auxquelles les initiés attachaient un sens à la fois réel et symbolique, signifiaient que l'âme doit passer par un état intermédiaire de purification et se débarrasser des impuretés de la terre avant de poursuivre son voyage. Mais comment peindre l'arrivée de l'âme pure dans son monde à elle? La terre a disparu comme un songe. Un sommeil nouveau, un évanouissement délicieux, l'enveloppe comme une caresse. Elle ne voit plus que son guide Élie, qui l'emporte avec la rapidité de l'éclair dans les profondeurs de l'espace. Que dire de son réveil dans les vallons d'un astre éthéré, sans atmosphère élémentaire, où tout, montagne, fleurs, végétation, est fait d'une nature exquise, sensible et parlante. Que dire surtout de ces formes lumineuses, hommes et femmes, qui l'entourent comme une théorie sacrée pour l'initier au saint mystère de sa vie nouvelle. Sont-ce des dieux ou des déesses? Non, ce sont des âmes comme elles-mêmes. Et la merveille est que leur pensée intime s'épanouit sur leur visage, que la tendresse, l'amour, le désir ou la crainte rayonnent à travers ces corps diaphanes dans une gamme de colorations lumineuses. Ici, corps et visages ne sont plus les masques de l'âme, mais l'âme transparente apparaît dans sa forme vraie et brille au grand jour de sa vérité pure. Psyché a retrouvé sa divine patrie, car la lumière secrète où elle se baigne, qui émane d'elle-même et qui lui revient dans le sourire des bien-aimés et des bien-aimées, cette lumière de félicité, c'est l'âme du monde. Elle y sent la présence de Dieu. Maintenant, plus d'obstacles. Elle aimera, elle saura, elle vivra sans autre limite que son propre essor. Ô bonheur étrange et merveilleux! Elle se sent unie à toutes ses compagnes par des affinités profondes, car dans la vie de l'au-delà, ceux qui ne s'aiment pas se fuient, et ceux-là seuls qui se comprennent s'assemblent. Elle célébrera avec elle les divins mystères en des temples plus beaux, dans une communion plus parfaite. Ce seront des poèmes vivants, toujours nouveaux, dont chaque âme sera une strophe, et où chacune revivra sa vie dans celle des autres. Puis, frémissante, elle s'élancera dans la lumière d'en haut, à l'appel des envoyés, des génies ailés, de ceux qu'on nomme des dieux parce qu'ils ont échappé au cercle des générations. Conduite par ces intelligences sublimes, elle tâchera d'épeler le grand poème du verbe occulte, de comprendre ce qu'elle pourra saisir de la symphonie de l'univers. Elle recevra les enseignements hiérarchiques des cercles de l'amour divin. Elle essaiera de voir les essences que répandent dans les mondes les génies animateurs. Elle contemplera les esprits glorifiés, rayons du Dieu des dieux, et elle ne pourra supporter leur splendeur aveuglante qui fait pâlir les soleils comme des lampes fumeuses. Et lorsqu'elle reviendra, épouvantée de ses voyages éblouissants, car elle frissonne devant ses immensités, elle entendra de loin l'appel des voix aimées et retombera sur les plages dorées de son astre, sous le voile rose d'un sommeil envoyant, plein de formes blanches, de parfums et de mélodies. Telle la vie céleste de l'âme que conçoit à peine notre esprit épaissi par la terre. Mais que devinent les initiés? Que vivent les voyants? Et que démontre la loi des analogies et des concordances universelles? Nos images grossières, notre langage imparfait, essaie en vain de la traduire. Mais chaque âme vivante en sent le germe dans ses profondeurs occultes. Si, dans l'état présent, il nous est impossible de la réaliser, la philosophie de l'occulte en formule les conditions psychiques. L'idée d'astres éthérés, invisibles pour nous, mais faisant partie de notre système solaire et servant de séjour aux âmes heureuses, se retrouve souvent dans les arcanes de la tradition ésotérique. Pythagore l'appelle une contrepartie de la Terre, l'antitone, éclairé par le feu central, c'est-à-dire par la lumière divine. À la fin du Phédon, Platon décrit longuement, quoique d'une manière déguisée, cette terre spirituelle. Il dit qu'elle est aussi légère que l'air et entourée d'une atmosphère éthérée. Dans l'autre vie, l'âme conserve donc toute son individualité. De son existence terrestre, elle ne garde que les souvenirs nobles et laisse tomber les autres dans cet oubli que les poètes ont appelé les ondes du léthé. Libérée de ses souillures, l'âme humaine sent sa conscience comme retournée. Du dehors de l'univers, elle est rentrée au-dedans. Cybèle Maya, l'âme du monde, l'a reprise dans son sein d'une aspiration profonde. Là, Psyché accomplira son rêve, ce rêve brisé à toute heure et sans cesse recommencé sur la terre. Elle l'accomplira dans la mesure de son effort terrestre et de sa lumière acquise, mais elle l'élargira au centuple. Les espérances broyées refleuriront dans l'aurore de sa vie divine. Les sombres couchers de soleil de la terre s'embraseront en jours éclatants. Oui, l'homme n'eût-il vécu qu'une heure d'enthousiasme ou d'abnégation, cette seule note pure, arrachée à la gamme dissonante de sa vie terrestre, se répétera dans son au-delà en progression merveilleuse, en harmonies éoliennes. Les bonheurs fugitifs que nous procurent les enchantements de la musique, les extases de l'amour ou les transports de la charité ne sont que les notes égrenées d'une symphonie que nous entendrons alors. Est-ce à dire que cette vie ne sera qu'un long rêve, qu'une grandiose hallucination? Mais qu'y a-t-il de plus vrai que ce que l'âme sent en elle et ce qu'elle réalise par sa communion divine avec d'autres âmes? Les initiés, étant les idéalistes conséquents et transcendants, ont toujours pensé que les seules choses réelles et durables de la terre sont les manifestations de la beauté, de l'amour et de la vérité spirituelle. Comme l'au-delà ne peut avoir d'autre objet que cette vérité, cette beauté et cet amour pour ceux qui en ont fait l'objet de leur vie, ils sont persuadés que le ciel sera plus vrai que la terre. La vie céleste de l'âme peut durer des centaines ou des milliers d'années, selon son rang et sa force d'impulsion. Mais il n'appartient qu'au plus parfait, au plus sublime, à celles qui ont franchi le cercle des générations, de la prolonger indéfiniment. Celles-là n'ont pas seulement atteint le repos temporaire, mais l'action immortelle dans la vérité. Elles ont créé leurs ailes. Elles sont inviolables, car elles sont la lumière. Elles gouvernent les mondes, car elles voient à travers. Quant aux autres, elles sont amenées par une loi inflexible à se réincarner pour subir une nouvelle épreuve et s'élever à un échelon supérieur, ou tomber plus bas si elle défaille. Comme la vie terrestre, la vie spirituelle a son commencement, son apogée et sa décadence. Lorsque cette vie est épuisée, l'âme se sent prise de lourdeur, de vertige et de mélancolie. Une force invincible l'attire de nouveau vers les luttes et vers les souffrances de la terre. Ce désir est mêlé d'appréhension terrible et d'une immense douleur de quitter la vie divine. Mais le temps est venu, la loi doit s'accomplir. La lourdeur augmente, un obscurcissement s'est fait en elle. Elle ne voit plus ses compagnons lumineux qu'à travers un voile, et ce voile, toujours plus épais, lui fait pressentir la séparation imminente. Elle entend leurs tristes adieux. Les larmes des bienheureux aimés la pénètrent comme une rosée céleste qui laissera dans son cœur la soif ardente d'un bonheur inconnu. Alors, avec des serments solennels, elle promet de se souvenir de la lumière dans le monde des ténèbres, de la vérité dans le monde du mensonge, de l'amour dans le monde de la haine. Le revoir, la couronne immortelle, ne sont qu'à ce prix. Elle se réveille dans une atmosphère épaisse, astre éthéré, âme diaphane, océan de lumière, tout a disparu. la revoilà sur la terre, dans le gouffre de la naissance et de la mort. Cependant, elle n'a pas encore perdu le souvenir céleste, et le guide ailé, encore visible à ses yeux, lui désigne la femme qui sera sa mère. Celle-ci porte en elle le germe d'un enfant, mais ce germe ne vivra que si l'esprit vient l'animer. Alors s'accomplit pendant 9 mois le mystère le plus impénétrable de la vie terrestre, celui de l'incarnation et de la maternité. La fusion mystérieuse s'opère lentement, savamment, organe par organe, fibre par fibre. À mesure que l'âme se plonge dans cet antre chaud qui bruit et qui fourmille, à mesure qu'elle se sent prise dans les méandres des viscères aux mille replis, la conscience de sa vie divine s'efface et s'éteint. Car entre elle et la lumière d'en haut, s'interposent les ondes du sang, les tissus de la chair qui l'étreignent et la remplissent de ténèbres. Déjà, cette lumière lointaine n'est plus qu'une lueur mourante. Enfin, une douleur horrible la comprime, la serre dans un étau. Une convulsion sanglante l'arrache à l'âme maternelle et la cloue dans un corps palpitant. L'enfant est né, misérable effigie terrestre, et il en crie d'épouvante. Mais le souvenir céleste est rentré dans les profondeurs occultes de l'inconscient. Il ne revivra que par la science ou par la douleur, par l'amour ou par la mort. La loi de l'incarnation et de la désincarnation nous découvre donc le véritable sens de la vie et de la mort. Elle constitue le nœud capital dans l'évolution de l'âme et nous permet de la suivre en arrière et en avant jusque dans les profondeurs de la nature et de la divinité. Car cette loi nous révèle le rythme et la mesure, la raison et le but de son immortalité. D'abstraite ou de fantastique, elle la rend vivante et logique, en montrant les correspondances de la vie et de la mort. La naissance terrestre est une mort au point de vue spirituel, et la mort une résurrection céleste. L'alternance des deux vies est nécessaire au développement de l'âme, et chacune des deux est à la fois la conséquence et l'explication de l'autre. Quiconque s'est pénétré de ces vérités se trouve au cœur des mystères, au centre de l'initiation. Mais dira-t-on, qu'est-ce qui nous prouve la continuité de l'âme, de la monade, de l'entité spirituelle à travers toutes ces existences, puisqu'elle en perd successivement la mémoire? Et qu'est-ce qui vous prouve, répondrons-nous, l'identité de votre personne pendant la veille et pendant le sommeil? Vous vous réveillez chaque matin d'un état aussi étrange, aussi inexplicable que la mort, vous ressuscitez de ce néant pour y retomber le soir. Était-ce le néant? Non, car vous avez rêvé et vos rêves ont été pour vous aussi réel que la réalité de la veille. Un changement des conditions physiologiques du cerveau a modifié les rapports de l'âme et du corps et déplacé votre point de vue psychique. Vous étiez le même individu, mais vous vous trouviez dans un autre milieu et vous meniez une autre existence. Chez les magnétisés, les somnambules et les clairvoyants, le sommeil développe des facultés nouvelles qui nous semblent miraculeuses, mais qui sont les facultés naturelles de l'âme détachée du corps. Une fois réveillés, ces clairvoyants ne se souviennent plus de ce qu'ils ont vu, dit et fait pendant leur sommeil lucide. mais ils se rappellent parfaitement, dans un de leurs sommeils, ce qui est arrivé dans le sommeil précédent, et prédisent, parfois avec une exactitude mathématique, ce qui arrivera dans le prochain. Ils ont donc comme deux consciences, deux vies alternées, entièrement distinctes, mais dont chacune a sa continuité rationnelle et qui s'enroule autour d'une même individualité comme des cordons de couleurs diverses autour d'un fil invisible. C'est donc en un sens très profond que les anciens poètes initiés ont appelé le sommeil le frère de la mort, car un voile d'oubli sépare le sommeil et la veille comme la naissance et la mort, et de même que notre vie terrestre se divise en deux parts, toujours alternées, de même l'âme alterne dans l'immensité de son évolution cosmique entre l'incarnation et la vie spirituelle, entre les terres et les cieux. Ce passage alternatif d'un plan de l'univers à l'autre, ce renversement des pôles de son être, n'est pas moins nécessaire au développement d'une âme que l'alternative de la veille et du sommeil est nécessaire à la vie corporelle de l'homme. Nous avons besoin des ondes du l'été en passant d'une existence à l'autre. Dans celle-ci, un voile salutaire nous cache le passé et l'avenir. Mais l'oubli n'est pas total, et la lumière passe à travers le voile. Les idées innées prouvent à elles seules une existence antérieure. Mais il y a plus. Nous naissons avec un monde de souvenances vagues, d'impulsions mystérieuses, de pressentiments divins. Il y a chez les enfants nés de parents doux et tranquilles des éruptions de passions sauvages que l'atavisme ne suffit pas pour expliquer et qui viennent d'une précédente existence. Il y a parfois dans les vies les plus humbles des fidélités inexpliquées et sublimes à un sentiment, à une idée. Ne viennent-elles pas des promesses et des serments de la vie céleste? Car le souvenir occulte que l'âme en a gardé est plus fort que toutes les raisons terrestres. Selon qu'elle s'attache à ce souvenir ou qu'elle l'abandonne, on la voit vaincre ou succomber. La vraie foi est cette muette fidélité de l'âme à elle-même. On conçoit pour cette raison que Pythagore, ainsi que tous les théosophes, aient considéré la vie corporelle comme une élaboration nécessaire de la volonté et la vie céleste comme une croissance spirituelle et un accomplissement. Les vies se suivent et ne se ressemblent pas, mais elles s'enchaînent avec une logique impitoyable. Si chacune d'elles a sa loi propre et sa destinée spéciale, leur suite est régie par une loi générale qu'on pourrait appeler la répercussion des vies. D'après cette loi, les actions d'une vie ont leur répercussion fatale dans la vie suivante. Non seulement l'homme renaîtra avec les instincts et les facultés qu'il a développés dans sa précédente incarnation, mais le genre même de son existence sera déterminé en grande partie par le bon ou le mauvais emploi qu'il aura fait de sa liberté dans sa vie précédente. Pas de parole, pas d'action qui n'ait son écho dans l'éternité, dit un proverbe. Selon la doctrine ésotérique, ce proverbe s'applique à la lettre d'une vie à l'autre. Pour Pythagore, les injustices apparentes de la destinée, les difformités, les misères, les coups du sort, les malheurs de tout genre, trouvent leur explication dans ce fait que chaque existence est la récompense ou le châtiment de la précédente. Une vie criminelle engendre une vie d'expiation, une vie imparfaite, une vie d'épreuve. Une bonne vie détermine une mission, une vie supérieure, une mission créatrice. La sanction morale qui s'applique avec une imperfection apparente au point de vue d'une seule vie s'applique donc avec une perfection admirable et une justice minutieuse dans la série des vies. Dans cette série, il peut y avoir progression vers la spiritualité, vers l'intelligence, comme il peut y avoir régression vers la bestialité et vers la matière. À mesure que l'âme monte en degré, elle acquiert une part plus grande dans le choix de ses réincarnations. L'âme inférieure la subit. L'âme moyenne choisit entre celles qui lui sont offertes. L'âme supérieure, qui s'impose une mission, l'élit par dévouement. Plus l'âme est élevée, et plus aussi elle conserve dans ses incarnations la conscience claire, irréfragable de la vie spirituelle qui règne au-delà de notre horizon terrestre, qui l'enveloppe comme une sphère de lumière et envoie ses rayons dans nos ténèbres. La tradition veut même que les initiateurs du premier rang, les divins prophètes de l'humanité, se soient souvenus de leur précédente vie terrestre. Selon la légende, Gautama Buddha, Sakyamuni, avait retrouvé dans ses extases le fil de ses existences passées. Et l'on rapporte de Pythagore qu'il disait devoir à une faveur spéciale des dieux de se souvenir de quelques-unes de ses vies antérieures. Nous avons dit que, dans la série des vies, l'âme peut rétrograder ou avancer selon qu'elle s'abandonne à sa nature inférieure ou divine. De là, une conséquence importante, dont la conscience humaine a toujours senti la vérité avec un tremblement étrange. Dans toutes les vies, il y a des luttes à soutenir, des choix à faire, des décisions à prendre, dont les suites sont incalculables. Mais sur la route montante du bien, qui traverse une série considérable d'incarnations, il doit y avoir une vie, une année, un jour, une heure peut-être, où l'âme, parvenue à la pleine conscience du bien et du mal, peut s'élever par un dernier et souverain effort à une hauteur d'où elle n'aura plus à redescendre et où commence le chemin des cimes. De même, sur la route descendante du mal, il y a un point où l'âme perverse peut encore revenir sur ses pas. Mais ce point, une fois franchi, l'endurcissement est définitif. D'existence en existence, elle roulera jusqu'au fond des ténèbres. Elle perdra son humanité. L'homme deviendra démon, le démon animal, et son indestructible monade sera forcé par la série des règnes ascendants et des existences innombrables. Voilà l'enfer véritable, selon la loi de l'évolution. Et n'est-il pas aussi terrible et plus logique que celui des religions exotériques? L'âme peut donc ou monter ou descendre dans la série des vies. Quant à l'humanité terrestre, sa marche s'opère d'après la loi d'une progression ascendante qui fait partie de l'ordre divin. Cette vérité que nous croyons de découvertes récentes était connue et enseignée dans les mystères antiques. Les animaux sont parents de l'homme et l'homme est parent des dieux, disait Pythagore. Il développait philosophiquement ce qu'enseignaient aussi les symboles d'Eleusis, le progrès des règnes ascendants, l'aspiration du monde végétal au monde animal, du monde animal au monde humain et la succession dans l'humanité de races de plus en plus parfaites. Ce progrès ne s'accomplit pas d'une manière uniforme, mais en cycles réguliers et grandissants, renfermés les uns dans les autres. Chaque peuple a sa jeunesse, sa maturité et son déclin. Il en est de même des races entières, de la race rouge, de la race noire et de la race blanche, qui ont régné tour à tour sur le globe. La race blanche, encore en pleine jeunesse, n'a pas atteint sa maturité de nos jours. À son apogée, elle développera de son propre sein une race perfectionnée par le rétablissement de l'initiation et par la sélection spirituelle des mariages. Ainsi se suivent les races, ainsi progresse l'humanité. Les initiés antiques allaient bien plus loin dans leurs prévisions que les modernes. Ils admettaient qu'un moment viendrait où la grande masse des individus qui composent l'humanité actuelle passerait sur une autre planète pour y commencer un nouveau cycle. Dans la série des cycles qui constitue la chaîne planétaire, l'humanité entière développera les principes intellectuels, spirituels et transcendants que les grands initiés ont cultivé en eux-mêmes dès cette vie, et les amènera ainsi à une efflorescence plus générale. Il va sans dire qu'un tel développement n'embrasse pas seulement des milliers, mais des millions d'années, et qu'il amènera de tels changements dans la condition humaine que nous ne pouvons les imaginer. Pour les caractériser, Platon dit qu'en ce temps-là, les dieux habiteront réellement les temples des hommes. Il est logique d'admettre que dans la chaîne planétaire, c'est-à-dire dans les évolutions successives de notre société sur d'autres planètes, ces incarnations deviennent d'une nature de plus en plus éthérée, qui les rapprochera insensiblement de l'état purement spirituel. De cette huitième planète qui est hors du cercle des générations et par laquelle les anciens théosophes désignaient l'état divin. Il est naturel aussi que, tous n'ayant pas la même impulsion, beaucoup restant en route ou retombant, le nombre des élus aille toujours en diminuant dans cette prodigieuse ascension. Elle a de quoi donner le vertige à nos intelligences bornées par la terre. Mais les intelligences célestes la contemplent sans peur, comme nous contemplons une seule vie. L'évolution des âmes ainsi comprises n'est-elle pas conforme à l'unité de l'esprit, ce principe des principes, à l'homogénéité de la nature, cette loi des lois, à la continuité du mouvement, cette force des forces. Vu à travers le prisme de la vie spirituelle, un système solaire ne constitue pas seulement un mécanisme matériel, mais un organisme vivant, un royaume céleste où les âmes voyagent de monde en monde comme le souffle même de Dieu qui l'anime. Quel est donc le but final de l'homme et de l'humanité selon la doctrine ésotérique? Après tant de vie, de mort, de renaissance, d'accalmie et de détails poignants, est-il un terme au labeur de psyché? Oui, disent les initiés, lorsque l'âme aura définitivement vaincu la matière, lorsque, développant toutes ses facultés spirituelles, elle aura trouvé en elle-même le principe et la fin de toutes choses. Alors, l'incarnation n'étant plus nécessaire, elle entrera dans l'état divin par son union complète avec l'intelligence divine. Puisque nous pouvons à peine pressentir la vie spirituelle de la vie après chaque vie terrestre, comment ferions-nous pour imaginer cette vie parfaite qui devra suivre toute la série de ces existences spirituelles? Ce ciel des cieux sera à ses félicités précédentes ce que l'océan est à des fleuves. Pour Pythagore, l'apothéose de l'homme n'était pas l'immersion dans l'inconscience, mais l'activité créatrice dans la conscience suprême. L'âme, devenue pur esprit, ne perd pas son individualité. Elle l'achève puisqu'elle rejoint son archétype en Dieu. Elle se souvient de toutes ses existences antérieures qui lui semblent autant d'échelons pour atteindre le degré d'où elle embrasse et pénètre l'univers. En cet état, l'homme n'est plus homme, comme disait Pythagore. Il est demi-dieu, car il réfléchit dans tout son être la lumière ineffable dont Dieu remplit l'immensité. Pour lui, savoir, c'est pouvoir, aimer, c'est créer, être, c'est rayonner la vérité et la beauté. Ce terme est-il définitif? L'éternité spirituelle a d'autres mesures que le temps solaire, mais elle a aussi ses étapes, ses normes et ses cycles. Seulement, ils dépassent entièrement les conceptions humaines. Mais la loi des analogies progressives dans les règnes ascendants de la nature nous permet d'affirmer que l'esprit parvenu à cet état sublime ne peut plus revenir en arrière et que si les mondes visibles changent et passent, le monde invisible, qui est sa raison d'être, sa source et son embouchure, et dont fait partie la divine psyché, est immortel. C'est par ces perspectives lumineuses que Pythagore terminait l'histoire de la divine psyché. La dernière parole avait expiré sur les lèvres du sage, mais le sens de l'incommunicable vérité restait suspendu dans l'air immobile de la crypte. Chacun croyait avoir achevé le rêve des vies et s'éveillait dans la grande paix, dans le doux océan de la vie, une et sans bornes. Les lampes de naphte éclairaient tranquillement la statue de Perséphone, debout en moissonneuse céleste, et faisaient revivre son histoire symbolique dans les fresques sacrées du sanctuaire. Quelquefois, une prêtresse entrait en extase sous la voix harmonieuse de Pythagore, semblait incarner dans son attitude et dans son visage rayonnant l'ineffable beauté de sa vision. Et les disciples, saisis d'un religieux frisson, regardaient en silence. Mais bientôt, le maître, d'un geste lent et sûr, ramenait sur la terre la profantide inspirée. Peu à peu, ses traits se détendaient. Elle s'affaissait dans les bras de ses compagnes et tombait dans une léthargie profonde, d'où elle s'éveillait, confuse, triste et comme épuisée de son essor. Alors, on remontait de la crypte dans les jardins de Cérès, à la fraîcheur de l'aube qui commençait à blanchir sur la mer, au bord du ciel étoilé.